Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui, le 24 du mois de Sha'ban de l'année 1443, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 12e cours de notre série de cours sur le commentaire des fondements de la sunna de l'imam al-Mubaddal Ahmed ibn Mohammed ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrivés à cette partie concernant le châtiment de la tombe. Donc il dit ici en titre, croire au châtiment de la tombe. Il dit, rahimahullahu ta'ala, il y a le fait de croire au châtiment de la tombe, que cette communauté est éprouvée dans les tombes, qu'elle est interrogée au sujet de la foi et de l'islam. Qui est son seigneur? Qui est son prophète? Quelle est sa religion? Les deux anges Munkar et Nakir viendront l'interroger dans la tombe, de la façon qu'Allah voudra. On doit croire en cela et l'accepter. Cheikh Rabi' de dire ici, Hafidahullah, il y a le fait de croire au châtiment de la tombe, donc la parole de l'imam Ahmed. Il dit donc en explication, à ce sujet, des hadiths ont été rapportés. Parmi les versets révélés, on peut citer la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans une traduction approximative, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Vous avez compris ce verset? Comment c'est une preuve pour affirmer le châtiment de la tombe? Hein?
Est-ce qu'il y a le feu avant que l'heure arrive?
Ahsant. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc les gens, le peuple ou les partisans de Pharaon seront exposés au feu matin et soir. Mais à quel moment? Si c'est avant l'heure. C'est un des versets qui a été utilisé par les gens de la sunna pour affirmer le châtiment de la tombe. Car comme nous allons le voir, les gens de l'innovation mécroient au châtiment de la tombe. Et Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah, ce grand savant de l'exégèse du Coran, dit dans son exégèse, dans le sens de ses paroles, ce verset que je viens d'évoquer ici, qui est le verset de Surat Ghafir, le verset numéro 46, il dit, ce verset est un fondement de base, ou un grand fondement de base, dans l'argumentaire des gens de la sunna, pour affirmer, qu'ils utilisent dans leur argumentaire, pour affirmer le châtiment de la tombe. Puis il dit, Hafidahullah, Pharaon et son peuple, ainsi que le reste des mécréants, seront exposés au feu matin et soir. C'est le châtiment du barzakh. Le châtiment du barzakh. Ensuite, Allah a ajouté le châtiment du jour de la résurrection, dans une traduction approximative du verset, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Sans oublier les autres versets qui vont dans ce sens. Parmi ces versets, nous trouvons ce verset de Surat Al-Mu'minun, où il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Barzakh, une barrière. Et les gens de la sunna ont affirmé que cette barrière, ont expliqué cette barrière qui est évoquée dans ce verset de Surat al-Mu'minun, le verset numéro 100, comme étant une preuve concernant le châtiment de la tombe. Il dit ensuite, Hafidahullahu ta'ala, il est rapporté dans les deux recueils authentiques au sujet du châtiment de la tombe que le messager sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes. Il dit, ces deux personnes sont châtiées. Et elles ne sont pas châtiées pour un grand péché. Il ajouta, mais si, c'est un grand péché. Car l'un d'eux faisait de la calomnie, quant à l'autre, il ne se cachait pas pour uriner. Les gens de l'innovation, dans leur contradiction, affirment ce hadith et l'utilisent dans des règles jurisprudentielles. Ils affirment ce hadith, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, et ils l'utilisent pour en sortir des règles jurisprudentielles, comme le fait qu'il est obligatoire de se préserver de l'urine. A'azzakumullah. Mais Malgré cela, ils n'affirment pas le châtiment de la tombe. Et ceci fait partie de la contradiction des gens de l'innovation. Ils utilisent un hadith ou un verset où il est affirmé une croyance que les gens de la sunna affirment, mais ils reconnaissent donc ce verset, sans aucun doute, ils reconnaissent ce hadith comme étant un hadith authentique, mais ils ne l'utilisent pas pour affirmer les croyances religieuses. Pourquoi ? Hein ? C'est quoi ? Il y a ça, mais avant cela, parce que cela, on ne l'a pas évoqué. Une chose qu'on a évoquée dans nos cours. Parce qu'ils ne tirent pas leur croyance du Coran et de la Sunna. D'où est-ce qu'ils tirent leur croyance ? Al-Kalam, de la raison. Ahsantum. On a dit que Ahlul Kalam, donc les gens de la scolastique, ce sont des gens qui pratiquent donc cette chose, donc cette pratique, la scolastique. Quelle est-elle ? D'affirmer. Hein ? Tfadal, nous savons ? Ahsant. Il croit, ensuite il recherche l'argument. De même que Ilmul Kalam, c'est le fait d'affirmer les croyances religieuses par la raison. Donc à partir de là, leur raison n'accepte pas le châtiment de la tombe. Ils ont cru, comme l'a dit Mustapha ici, ils ont cru, puis ils ont cherché la preuve. Puis ils ont demandé la preuve. Alors que les gens de la sunna demandent la preuve et croient en fonction de ce qu'impliquent ces preuves. Ceci est la voix de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien. Radiallahu anhum ajma'in. À l'inverse des gens de l'innovation qui eux prennent leur croyance de la logique, de la raison et autre que cela. Donc ils affirment ce hadith. Ils ne peuvent pas dire que ce hadith est un hadith qui est faux. Ils l'affirment, mais ils prennent de ce hadith des jugements religieux, comme par exemple l'obligation de se préserver de l'urine, azakumullah, lorsque tu vas faire tes besoins, mais de se préserver de l'urine, donc de faire l'istinja ou l'istijmar, donc de se nettoyer. Mais ils réfutent ou ils réprouvent cette chose. De même qu'ils affirment l'obligation de se préserver de la calomnie et que la calomnie est un grand péché, mais ils réprouvent cette croyance qui est venue dans ce hadith. Et cela, nous le trouvons dans plusieurs hadiths, comme on va le voir ici. Shir de dire donc, il a commis un grand péché et Allah les a châtiés dans la tombe à cause de leur péché. Parmi les hadiths, on veut citer celui d'Al-Bara, qui est une base, le hadith de Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, qui est une base dans l'argumentaire des gens de la sunna concernant l'affirmation du châtiment de la tombe. Où les deux anges, Munkar et Nakir, comme ils ont été évoqués, comme leur nom a été évoqué dans certains hadiths authentiques, Munkar et Nakir viennent trouver le mort dans sa tombe et le questionnent. Le croyant dira, lorsqu'il sera questionné à propos de ce messager qui lui est envoyé, il dira, il est Muhammad, ce messager envoyé à moi, il est Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a apporté les versets détaillés et l'a guidé, comme cela est mentionné dans le hadith de Asma, nous avons cru en lui et l'avons suivi. En ce qui concerne le hadith d'Al-Bara, les deux anges interrogent, qui est ton Seigneur ? Man Rabbuk ? Ces trois fondements que nous avons étudiés dans Al-Usul al-Thalatha. Man Rabbuk ? Qui est ton Seigneur ? Qui est ton prophète ? Qui est ton prophète ? Man Nabiyuk ? Quelle est ta religion ? Madinuk ? Il répondra, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les anges diront, nous t'avons reconnu, tu étais croyant, repose-toi donc, car tu étais croyant. On lui dira, Allah te l'a, on lui présentera ainsi sa place de l'enfer, s'il avait mécru. Puis on lui dira, Allah te l'a échangé par une autre place dans le paradis. Il dira ensuite, Seigneur, fais venir l'heure de la résurrection. Et il répondra, patiente. Car lorsqu'il verra sa place qui lui est promise au paradis, de par sa foi qu'il a eue, il voudra hâter la venue de l'heure. À l'inverse du non-croyant qui lui, lorsqu'il lui sera ouvert une fenêtre vers l'enfer et qu'on lui montrera matin et soir, comme il est venu dans le verset précédemment, le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Ça, c'est le non-croyant. Il lui sera montré sa place qu'il aura en enfer matin et soir. Et ceci en soi est un châtiment. Ceci en soi est un châtiment. Et nous voyons ici le châtiment de la tombe. Une partie du châtiment de la tombe. Le fait que le non-croyant, il lui sera montré sa place en enfer matin et soir. Cette chose en elle-même est un châtiment. De même que le délice que nous affirmons, que les gens de la Sunna affirment, ce délice qu'ils auront dans leur tombe lorsque il leur sera montré cette place au paradis. Ceci en soi est un délice. On lui montre la place qu'il aura au paradis. Et il se délecte de voir cette place. Il dit, quand on nous croyons, les deux anges viendront l'interroger. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Il dira, ha, ha, la adri. Ah, ah, je ne sais pas. Qu'Allah nous en préserve. J'ai entendu des gens dire quelque chose et je l'ai dit. Shir de dire donc ici, donc le hadith de Al-Bara ibn Azib est plus long que cela, est plus détaillé, mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, nous l'avons déjà évoqué précédemment, et ici Shir, hafidahullah, l'a résumé. Il dit ensuite, on demande à Allah de nous accorder le salut. Amin. Car on craint pour beaucoup de gens, parce que ce dernier ne connaît pas correctement la signification du message. Il ne sait pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté les versets détaillés et l'a guidé. Il ne connaît pas le sens de l'expression « La ilaha illallah ». Il a seulement trouvé les gens en train de dire quelque chose et il l'a répété. Donc, l'importance de connaître ces fondements, de connaître ces trois fondements, l'importance d'étudier ces trois fondements, d'étudier la religion de l'islam, d'étudier ce qui est en relation, ce qui a trait à notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, d'étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, hafidahullah, par conséquent, que le croyant soit sur ses gardes, qu'il médite sur le livre d'Allah et se prépare en conséquence pour répondre aux questions de la tombe. Parmi les épreuves qui se trouvent dans la tombe, ou parmi ces péripéties qui se trouve dans la tombe, nous avons, comme on l'a dit ici, le châtiment, pour certaines personnes, pour ceux qui ont mécru, le délice qui se trouvera dans la tombe, pour ceux qui ont cru, nous avons aussi l'épreuve dans la tombe. Parmi cette épreuve, la venue des deux anges qui le questionnent. Ceci est une épreuve. De même que ce qu'on appelle « dammatul qabr » ou « dartatu al qabr », c'est-à-dire la pression. Une pression, c'est-à-dire que la tombe de l'ensemble d'entre nous se rétractera jusqu'à ce que, pour le non-croyant, en tout cas, ses côtes viendront à s'entrecroiser. Et c'est ce qu'on appelle ad-damma ou ad-darta, la pression qu'il y aura dans la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, si une personne avait été préservé de cette damma, de cette pression dans la tombe, Sa'd ibn Mu'ad al-Ansari, radiallahu anhu, ce grand compagnon, en aurait été préservé. Sa'd ibn Mu'ad, qui était un grand compagnon parmi l'Ansar, parmi les nobles, parmi l'Ansar, les habitants de Médine, qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'd ibn Mu'ad, ce grand compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous avait été préservé de cette darta ou de cette damma, ça aurait été Sa'd ibn Mu'ad. Ici, Al-Shir a évoqué ici un hadith que je vais évoquer uniquement pour appuyer ce que j'ai dit précédemment. Nous voyons la contradiction ici des gens de l'innovation. Ici, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, vous serez éprouvés dans vos tombes de la même manière ou presque que l'épreuve de l'antéchrist, ad-daddial. Et dans le, ceci est une partie, puis Ashir de dire, et dans le tashahhud de la prière, il y a l'invocation suivante. Ô Allah, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, et contre l'épreuve de la vie et de la mort. Ce hadith que vous connaissez, qui fait partie des invocations que tu dis après le tashahhud. Le dernier tashahhud. Les gens de l'innovation affirment ce hadith et prennent de ce hadith des règles jurisprudentielles, comme le fait que cette invocation est faite après le dernier tashahhud. Donc ils affirment cela, les gens de l'innovation, parmi le Mu'tazila et autres. Mais ils n'affirment pas ce qui est venu dans ce hadith comme information. « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. » Ceci fait partie des contradictions claires que tu trouveras chez les gens de l'innovation. Ils renient l'existence du châtiment de la tombe, mais ils affirment ce hadith et le récitent dans leur tashahhud. Puis Cheikh de dire, parmi les particularités du croyant, la meilleure de ces particularités d'ailleurs est qu'il croit en l'invisible. Ceci fait partie des particularités de ceux qui ont la foi. Et Allah Azzawajal a fait l'éloge des croyants par le fait qu'ils croient en l'invisible. Et sans aucun doute, le châtiment de la tombe, comme tout ce qui se passe après la mort, fait partie de l'invisible. Et Allah Azzawajal dit, lorsqu'il fait l'éloge aux croyants, dans le sens approximatif de ces paroles, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent comme il le faut la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce dont nous leur avons attribué. Allah Azza wa Jalla ici fait l'éloge des croyants et évoque l'une de leurs particularités, la meilleure, comme le dit Echir ici, de ces particularités, d'ailleurs, le fait qu'ils croient en l'invisible. Les croyants disent, nous avons entendu, tout est là de la part de notre Seigneur. Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons cru, tout est de la part de notre Seigneur. Ceci est la voix des croyants. Ils croient en l'invisible, ils croient en ceux qui ne l'ont pas vu, mais quand Allah tabaraka wa ta'ala nous informe de quelque chose, nous y croyons. De même que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tout véridique, nous informe de quelque chose, nous y croyons. Et nous n'avons pas besoin de le voir pour y croire. Une affaire pour terminer le, pas le cours d'aujourd'hui, mais en tout cas le, ce qui est en relation avec le châtiment de la tombe, un sujet qui est traité parfois dans certains livres, qui est le sujet concernant la question, est-ce que les morts entendent ? Est-ce que les morts entendent ? Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, Tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, Azza wa Jal, tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds, quand ils s'enfuient en tournant le dos. Donc il dit, tu ne peux faire entendre les morts. Ça c'est un verset. Un autre verset, il dit, Tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, de même ne sont pas semblables les vivants et les morts, Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Donc ces deux versets, ce que nous comprenons de ces deux versets, c'est que les morts entendent ou n'entendent pas ? N'entendent pas. Il est rapporté dans As-Sahihayn, les deux recueils authentiques, ce hadith qui est appelé communément Hadith al-Qalib, c'est-à-dire le hadith du puits. Et le puits qui est voulu ici, c'est le puits ou les puits qui se trouvaient à Badr. Ces puits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont jeté les associateurs de Quraysh, et en particulier les têtes des associateurs. Il les a jetés dedans, dans ces puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les avoir jetés, après qu'ils les ont jetés, les a appelés par leur nom. Ya Aba Jahl, Ya Fulan, Ya Fulan. Est-ce que vous avez trouvé, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous a promis? Moi, j'ai trouvé ce que mon Seigneur m'a promis. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Omar, radiallahu anhu, de venir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui dire, parles-tu à des corps qui n'ont pas d'âme? C'est-à-dire qu'il s'est étonné. Radiallahu anhu, tu parles, tu t'adresses à des corps qui n'entendent pas, qui n'ont pas d'âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dans le sens de ses paroles, par celui qui m'a envoyé avec la vérité, tu n'entends pas plus ce que je dis que eux m'entendent. Donc dans ce hadith, nous voyons l'affirmation que ces gens-là ont entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Aba Jahl, Ya Utba, Ya Walid, etc. parmi les têtes de Quraysh qui sont morts à la bataille de Badr. De même que dans ce hadith, qui se trouve dans As-Sahihayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, lorsque le mort est posé dans sa tombe, il entend le bruit des sandales des gens lorsqu'ils s'en vont. Des sandales des gens, et dans certaines versions des gens de sa famille, lorsqu'ils s'en vont. Une fois qu'il a été mis dans la tombe, et que les gens de sa famille s'en vont, il entend le bruit de leurs sandales. Donc ici, nous voyons aussi dans ce hadith que le mort, à ce moment-là, entend. Et sans aucun doute, ces règles-là que j'évoque ici dans ce sujet sont des choses de l'invisible. Donc, ils ne peuvent être compris, qui ne peuvent être comprises que par la révélation. Et pour résumer et pour comprendre cette question, ce qui est évoqué par les gens de la Sunna, bien qu'ils ont divergé à propos de cela, ce qui a l'air le plus authentique, et c'est l'avis de certains parmi les grands savants de la Sunna, parmi le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et autres que lui, le fait qu'il n'y a pas, sans aucun doute, de contradiction entre ces versets et ces hadiths, mais plutôt nous dirons que, de manière générale, le mort n'entend pas. Mais il se peut qu'il entende à certains moments. Et Allah Azza wa Jal fait entendre qui il veut, comme il l'a dit dans ce verset. Donc Allah Azza wa Jal fait en sorte que ces têtes de Quraysh, à ce moment-là, ce jour-là, ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une chose. De même que le mort, au moment où il est mis en terre, et au dernier moment où l'accompagne sa famille, lorsqu'ils s'en vont, il entend le bruit de leurs sandales au moment où ils s'en vont. Ceci est un moment aussi où le mort entend. Hormis cela, le mort n'entend pas d'après la portée générale de ces versets. D'après la portée générale de ces versets évoqués ici. Et ceci est l'avis le plus juste, wallahu a'lam. Vous avez compris ? Donc, sans aucun doute, ceci fait partie des arguments à mettre en avant à ceux qui invoquent, en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ces gens qui se trouvent dans des tombes, ces gens qui sont morts, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus honorable des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou ceux qui sont en dessous de lui parmi al-awliya et autres que cela, comme il les appelle. Le fait que ces gens-là n'entendent pas, et même s'ils entendaient, ils ne répondraient pas, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces versets. Le titre ici, croire en l'intercession au jour de la résurrection. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles. Croire en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'intercession en faveur d'un peuple qui sortira du feu après avoir été brûlé et être devenu du charbon. On ordonnera de les mettre dans une rivière située à la porte du paradis, d'après ce qui est rapporté dans les textes et ce, de la façon qu'Allah voudra. Nous devons seulement croire en cela et l'accepter. Faites bien attention encore une fois, nous devons seulement croire en cela et l'accepter. Ceci est la voie des croyants, l'acceptation des textes rapportés de manière authentique, l'acceptation de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant l'intercession, ce sujet-là concerne l'intercession. L'intercession donc, al-shafa'a. C'est un sujet que nous avons déjà étudié, si vous vous rappelez, dans le livre « Les quatre règles » de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Pour résumer ici, donc, Cheikh de dire, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique. Elle se passera le jour de la résurrection lorsque la terreur des gens s'intensifiera. Les gens iront voir Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa et Isa. Chacun d'eux s'abstiendra d'intercéder en présentant l'une des excuses connues dans le hadith. Ensuite, les gens viendront rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dira, j'en suis digne, donc de cette intercession. Il ira et tombera prosterné longtemps sous le trône. Il louera Allah par des louanges qu'il ne connaît pas encore en ce moment. Allah ne les lui révélera qu'à cet instant. Ensuite, on lui dira, lève la tête, demande, on te l'accordera, intercède et on t'accordera l'intercession. Ici, Cheikh a rapporté ce hadith qui traite de l'intercession qui est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle al-shafa'atu al-uzma, la grande intercession. Celle que nous avons étudiée précédemment. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs intercessions, intercède de plusieurs manières et à plusieurs moments au jour de la résurrection. Il y a des intercessions qui lui sont propres et des intercessions, des shafa'at qu'il détient, sallallahu alayhi wa sallam, comme autres que lui détiennent. Tout ceci par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi ? Car l'intercession, comme on l'a dit, al-shafa'a, comme on l'a dit précédemment, qu'est-ce que cette dernière ? Pour ceux qui étaient là et qui se rappellent. Al-shafa'a. Quelle est la définition de al-shafa'a ? La définition de al-shafa'a. l'intercession. Tafadhal Kamal. De manière résumée, ahsant, le fait de demander le bien à autre que soi. De manière un peu plus détaillée, comme on l'avait dit précédemment, c'est de demander à quelqu'un d'intercéder ou de prendre un intermédiaire dans l'acquisition d'un bien ou le fait de repousser un mal. Prendre un intermédiaire dans l'acquisition d'un bien ou de repousser un mal. C'est le sens de Al-Shafa'a. Et Al-Shafa'a qui est question ici, c'est cette Shafa'a, cette intercession qui sera au jour de la résurrection. Il y a deux sortes de Shafa'a, comme nous l'avons évoqué dans les quatre règles, si vous vous rappelez. Quelles sont-elles ? Voilà, tafadhal. Ahsant. Al-Manfiyya ou Al-Muthbata. Donc Al-Manfiyya, celle qui est... Hein, qu'est-ce qu'il dit ? Hein ? Al-Manfiyya. Quelle est-elle, celle-ci ? Hein ? Ahsant. Ahsant. Comme il le dit Cheikh al-Islam dans les quatre règles, comme nous l'avons évoqué. Donc, Al-Shafa' al-Manfiyya, donc celle qui est niée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah peut. Et Al-Muthbata, celle qui est affirmée, c'est celle qui est demandée à Allah. Celle qui est demandée à Allah et qui réunit les conditions d'acceptation de cette Shafa'a. Quelles sont ces conditions ? Nous avons dit que ces conditions sont au nombre de deux. Quelles sont-elles ? Kamal Tfaddal. Donc, Al-Ithn, qui est la permission, mais la permission de qui ? Hein ? La permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de quoi ? D'intercéder. Donc, nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'une personne intercède. D'accord ? C'est pour cela, ceci nous amène à un sujet qui est très important. Avant de venir à cela, nous dirons donc que ceci est une des conditions, donc le fait qu'Allah Azzawajal accepte et donne l'autorisation à cette personne d'intercéder. Ici, en l'occurrence, nous parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons parler d'autres que lui. Mais Allah Azzawajal donne l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder. Et la deuxième ? Hein ? Ahsant, mais Ahsantum, mais comment on a dit ?
Qu'il l'agrée.
Qu'il l'agrée. Ahsant, al-rida, donc qu'il l'agrée. L'agrément. L'agrément d'Allah Azzawajal de cette personne. Et donc, nous avons ces deux conditions qui doivent être réunies pour que cette shafa'a, donc cette intercession, soit appelée muthbata, donc cette intercession qui est affirmée, qui est confirmée. Revenons à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder. Il va intercéder. Donc est-ce qu'il est permis à une personne de dire, de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en sa faveur ? Est-ce qu'il est autorisé de demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui possède nombre et nombre d'intercessions, d'intercéder en sa faveur ? Comment il est interdit de, alors qu'il possède des intercessions et il est interdit de lui demander d'intercéder ? Et il croit. Hein ? Il est mort. Il est mort, mais il va intercéder, non ? Yom al-Qiyamah. Mais nous, on parle d'une intercession Yom al-Qiyamah. Hein ? Il faut la permission d'Allah, mais. Hein ? Ahsantum. Une erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes. Faites bien attention à Yom al-Ikhwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder dans des intercessions qui lui sont propres, comme je vais évoquer ici, comme dans des intercessions qui sont générales, que autre que lui possède aussi, ou que autre que lui possède, donc par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces gens qui intercéderont au jour du jugement, les anges, les autres prophètes, les pieux, les croyants qui intercéderont les uns pour les autres, tout ceci possède une intercession qu'Allah Azza wa Jal leur autorisera au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc possède ses intercessions par la permission d'Allah Azza wa Jal et des intercessions qui lui sont propres, qui sont au nombre de trois que je vais évoquer ici. Mais le fait que Allah Azzawajal lui a donné cette permission d'intercéder ne veut pas dire que cette intercession tu lui demandes à lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Que tu dis, ô messager d'Allah, intercède en ma faveur. Ceci n'est pas autorisé. Ceci est même de l'association, du shirk. Faites bien attention à Yuel Ikhwa. Ceci est de l'association. Lorsqu'une personne demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour lui. Pourquoi ? Nous avons dit qu'il a une intercession. Il a plusieurs intercessions. Il intercédera pour les croyants. Pourquoi je n'ai pas le droit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors d'intercéder pour moi ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que l'intercession, la demande d'intercession, ceci est une invocation. Tu demandes à celui qui l'a, détient. Et celui qui détient l'intercession, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et non le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détiendra l'intercession lorsque Allah azza wa jal lui autorisera. Mais si tu demandes, tu invoques quelqu'un en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu auras certes associé à lui azza wa jal. Vous comprenez la nuance ici ? Il détient quelque chose. Mais celui qui lui accorde cette chose, c'est Allah azza wa jal. Tu ne peux pas lui demander à lui, sallallahu alayhi wa sallam, d'intercéder pour toi. Plutôt, tu dis, Ya Allah, shaffi' fiyya rasulaka, sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais intercéder pour moi ton messager. Faites bien attention à cette nuance-là. Et c'est une grande nuance. Vous avez compris ? Donc, il est interdit de demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans ta maison ou que ce soit devant, ou que ce soit devant, ou que ce soit dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, et d'aller le visiter, de lui dire, ô messager d'Allah, intercède pour moi au jour de la résurrection. Ceci est interdit, ceci relève plutôt de l'association. Faites bien attention, plutôt, lorsque tu désiras demander cette intercession, tu la demanderas à celui qui accorde l'intercession, celui qui la possède, Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu diras, Ya Allah, shaffi' fiyya rasulaka, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, fais intercéder pour moi, en ma faveur, ton messager. Faites bien attention à cela. Barakallahu fikoum. Vous avez compris la nuance ? Ici.
Mais à son époque, il pouvait le demander directement ?
Non, à son époque, même à son époque, Ahsante. Ici, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sallallahu alayhi wa sallam, tu ne lui demandes rien. Intercession ou pas intercession ? Puisqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne lui demandes rien. Ni intercession, ni autre que cela. Mais ici, concernant l'intercession, même de son vivant, personne n'allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi as-sahaba et lui disait, donne-moi l'intercession, ya Rasulallah, puisque l'intercession, comme on l'a dit, elle se demande à celui qui la possède, à Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez ? Ahsante.
Fadda. Il y a un parole où vous recevez, il dit, celui qui intercède à ma faveur, j'intercèderai à sa faveur, au nom de Allah.
Celui qui ?
Intercède à ma faveur. C'est-à-dire la dua.
Ahsante, ceci. Ahsante, ceci sont des causes. Il y a des causes. Il y a des causes, comme le fait de prier sur lui, comme le fait de faire cette invocation après Al-Adhan et autres que cela, qui font que tu mérites cette intercession, l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection. Mais il n'y a pas donc de contradiction entre ceci et cela. Ceci sont seulement des causes qui font que tu mérites, que tu mériteras cette intercession, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des causes, il nous a orientés vers des causes qui nous font rentrer au paradis. Il nous a orientés vers des causes qui nous font mériter cette intercession et autre que cela. Mais cette intercession, dans tous les cas, tu la demandes à celui qui la détient. Et avant l'Iqama, nous dirons que les intercessions qui sont propres au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci selon des preuves du Coran et de la Sunna, sont au nombre de trois. Il détient l'intercession qu'on appelle Al-Shafa'atul Uzma, donc la grande intercession, qui est celle évoquée ici par Shir dans le passage que nous avons lu, qui est cette intercession où le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera lorsque les gens au jour de la résurrection viendront voir les prophètes et que chacun donnera son excuse qu'il ne pourra intercéder. Puis ils viendront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il se passe ce que j'ai évoqué ici dans le hadith et que Allah azza wa jalla lui autorisera d'intercéder. À ce moment-là, il intercédera pour que le jugement, pour que les comptes commencent. Car les gens seront dans un supplice à l'attente des comptes. Car ils ne savent pas ce qui adviendra de eux. Et que ce moment-là est un moment difficile, est un moment très difficile pour tout le monde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intercédera à ce moment-là, cette shafa'a, uzma, cette grande intercession pour que les comptes commencent. Ceci est une intercession qui est propre à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre intercession qui est propre à lui, cette intercession pour qu'on ouvre les portes du paradis, pour que le paradis soit ouvert et que les gens commencent à rentrer, comme ceci est évoqué dans ces hadiths qui sont authentique, c'est-à-dire que les portes ne s'ouvriront pas jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour qu'il s'ouvre et que les gens commencent à rentrer au paradis. La troisième de ces intercessions qui sont propres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cette intercession pour son oncle Abu Talib, son oncle qui est mort, musulman ou pas? Non, à l'inverse de ce que certains peuvent prétendre, Abu Talib est mort sur l'incroyance. Il n'est pas mort sur l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a rapporté dans ses hadiths qui se trouvent dans les deux recueils authentiques, intercédera pour lui, pour qu'il se trouve dans la situation de celui qui sera le moins châtié au jour du jugement. Quel est ce châtiment? Ou en enfer, quel est ce châtiment? Hein, Omar?
C'est de l'eau bouillante comme
vous
êtes chérie.
Dans un verset de l'eau bouillante, c'est-à-dire qu'il aura les pieds dans une mare d'eau bouillante qui lui feront bouillir son cerveau. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver du feu de l'enfer. Et dans un autre hadith, on le placera sous ses pieds deux braises incandescentes qui feront bouillir son cerveau. Et ces trois shafa'at sont des shafa'at qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, et le reste des shafa'at, des intercessions, sont des intercessions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détiendra par la permission d'Allah, de même que les anges intercéderont, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths, de même que les autres prophètes et messagers, de même que les croyants pieux, de même que les croyants qui intercéderont les uns pour les autres. Et ces intercessions, nous les évoquerons au prochain cours, incha'Allahu ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.